Et la licence 4, il y en a un qui a la licence 4 et pas l'autre.
Non.
Des phrases comme les prisonniers, oh là là, hey, c'est la belle vie, nourris, logés gratuitement. En plus, ils ont la téloche. Alors, rectification, ils sont mal logés, oui, mal nourris. Gratuitement. Oui. Et la télé, c'est 14 euros par mois. Alors, ça fait cher pour entendre que tu es un privilégié alors que tu dors sur un matelas par terre. Tout le monde n'est pas en coloc avec Jonathan Daval, qui est une petite fée du logis et un cordon bleu. Bon défilé du 1er mai à tous.
Les patrons, c'est comme les cochons.
Excusez-les, c'est nos intermittents en Saint-Ouel qui en sont à la 4e 8-6.
Ça nous aurait.
Merci Michel.
L'œil de Philippe Cadrévy. On vous retrouve bien entendu à 8h40 pour votre deuxième œil. Merci d'être resté avec nous, Michel.
Merci à vous.
Pour entendre tout ça. Bonne journée et bon travail à nos petites entreprises.
La mer piquant, la mer piquant, c'est bon.
Vous avez bien fait de venir nous voir le 1er mai. Il est 8h.
RTL Matin,
Amandine Bégaud et Yves Calvi.
Et le journal de 8h avec Olivier Bois. Bonjour Olivier.
Bonjour Amandine, bonjour Yves, bonjour à tous.
À la une ce matin, la détresse d'une propriétaire à Cannes qui entame une grève de la faim.
Ses locataires ne payent plus le loyer. Leur dette a pourtant été annulée par la Banque de France, mais ils refusent toujours de partir. Dans ce journal également, la mort de l'immense écrivain new-yorkais Paul Auster. Bernard Lehu nous racontera sa rencontre chez lui à Brooklyn. La Russie qui gagne du terrain mais qui ne parvient pas à percer les lignes de défense ukrainiennes. Le PSG qui est à Dortmund ce soir. Et puis en ce 1er mai, attention pour les vendeurs de muguet amateurs, on ne peut pas faire n'importe quoi non plus. RTL vous explique dans 10 minutes.
À 8h20, le psychologue Didier Pleu nous parlera de l'autorité éducative. Est-ce devenu un tabou en France? En tout cas, c'est une urgence pour lui. Il est avec nous dans moins de 20 minutes.
Juste avant le surf de l'info, Cyprien, vous surfez ce matin avec les amendes routières.
Oui, elles n'ont jamais rapporté autant à l'État. Plus on conduit mal, plus l'État encaisse. Et visiblement, on conduit très très mal. Ou alors, on se fait plus souvent attraper.
RTL Matin.
Et on va donc commencer par ce sujet qui va sûrement vous faire réagir ce matin sur RTL. Les locataires sont-ils trop protégés en France aux dépens parfois de leurs propriétaires? C'est ce que pense en tout cas cette femme, Danielle, à Cannes, qui a donc entamé une grève de la faim. Ses locataires, je vous le disais, ne payent plus depuis 8 mois. L'affaire est délicate parce qu'il s'agit d'une famille avec 4 enfants en très grande difficulté. Mais il se trouve que la Banque de France, pour les aider, a annulé leur dette de 7000 euros, alors qu'ils refusent toujours de quitter l'appartement, Michel Lefebvre.
Oui, et c'est justement à partir du moment où elle a appris l'effacement de cette dette que Danielle Trottini a débuté sa grève de la faim. Fatiguée, les mains tremblantes, la quinquagénaire est sous le choc après cette décision.
Déjà, ils ne payent pas, après on leur annule la dette et ils ne partent pas. Donc c'est tranquille hein, pour eux. Moi, je ne peux pas continuer à perdre de l'argent comme ça et à ce qu'on les protège comme ça pendant je ne sais pas combien de temps. Ce n'est pas possible ça. Donc moi aussi, je vais aller à la Banque de France et je vais leur demander un dossier de surendettement. C'est un peu le chien qui se mord la queue là.
Face à une situation financière très précaire des locataires, un couple avec 4 enfants, la commission de surendettement de la Banque de France avait en fait 2 solutions, échelonner la dette ou l'effacer, tout en demandant à ce que le paiement des loyers reprenne au 28 mars. Mais la famille a déjà prévenu qu'elle ne paierait toujours pas. Assise sur son balcon, enchaînant les cigarettes, Danielle reste déterminée à aller jusqu'au bout de sa démarche.
Jusqu'à ce qu'on mène à l'hôpital pour me perfuser. Je pense que c'est comme ça que ça va finir. Tant que je n'ai pas récupéré cet appartement, je ne mangerai pas.
Contactée, la Banque de France ne nous a pas répondu. La procédure d'expulsion pourrait quant à elle durer encore 1 an, à moins que les locataires squatteurs obtiennent un logement social d'ici là.
Merci Michel Lefebvre. Et les locataires réagissent dans Nice ce matin. Ils disent comprendre la difficulté pour la propriétaire, mais expliquent qu'ils ont dû faire face à la maladie et que l'arrivée du 4e enfant les a mis en grande difficulté. Et puis le maire de Cannes, David Lisnard, dit lui suivre la situation de très près et se dit favorable à une modification de la loi pour protéger les propriétaires.
Voilà un sujet qui va sans doute vous faire réagir. Vous prenez la parole comme chaque jour sur RTL. Un numéro pour cela, le 3210. Les auditeurs ont la parole, c'est des 13h avec Éric Pouhenet.
Il est 8h04, on a donc appris ce matin la mort de l'immense écrivain américain Paul Auster.
Il est mort hier à l'âge de 77 ans, des suites d'un cancer, chez lui à Brooklyn, dans sa ville de New York, qui l'a tant inspiré. Bonjour Bernard Lehu.
Oui, bonjour.
La trilogie new-yorkaise, évidemment, c'est son œuvre majeure. Il se trouve que vous l'avez rencontré à plusieurs reprises à Paris, mais également il y a quelques années chez lui à Brooklyn, Bernard.
Mais oui, Brooklyn, qu'il a raconté tant de fois dans ses romans. Il vivait avec sa femme Siri Hotzvet, elle aussi écrivaine de renom, dans une grande maison en grès rouge. Et il travaillait au rez-de-jardin, dans un bureau à l'ambiance monacale, face à un mur entièrement blanc. Paul Auster écrivait d'abord à la main, puis il reprenait ses textes à la machine à écrire.
On n'écrit pas pour soi, c'est un don, un cadeau qu'on donne au monde.
Nous allons découvrir le lieu où naissent tous les romans de Paul Auster. Alors la machine, oui. Olympia, notre vieille de 50 ans, vous le disiez tout à l'heure, c'est elle qui est là en face de nous.
Oui, je l'ai acheté $40. Ça marche toujours. Les ordinateurs cassent tout le temps, mais cette machine est éternelle.
Voilà, c'est la mélodie de Paul Auster, en quelque sorte, qu'on entend avec le bruit du clavier de cette vieille Olympia.
Bernard, on entend évidemment son français qui était quasiment parfait. Pourquoi est-ce qu'on dit qu'il était le plus francophile des écrivains américains ?
Eh bien, il était passionné de littérature française, qu'il a étudié à la fac. Il est devenu ensuite traducteur de grands auteurs français, comme Georges Simenon ou le poète Mallarmé. Une passion qui lui a fait traverser l'Atlantique, jeune homme. Il a vécu à Paris et surtout à Angers pendant 3 ans, où il a donc cultivé son français qu'il parlait à la perfection avec simplement cette petite pointe d'accent qui lui donnait tant de charme dans la conversation.
Et puis d'un mot, Bernard, votre conseil, si on n'a jamais lu Paul Auster, par quel roman on peut commencer par exemple ?
Alors moi je vous conseille, ça n'est pas l'un des plus connus, l'un des titres qu'on cite le plus souvent, c'est Sunset Park. C'est une fresque familiale au lendemain de la crise des subprimes aux États-Unis, et ça donne un livre non seulement passionnant mais aussi bouleversant. Voilà, une très bonne entrée dans l'œuvre de cet immense écrivain qui était Paul Auster, et surtout un homme aussi extrêmement sympathique.
Et qui est donc mort hier à l'âge de 77 ans. Merci beaucoup Bernard Lehu.
Il est 8h06, Sertel a fait les comptes. Les JO sont bien l'arme fatale pour négocier des primes.
Oui, réussir les Jeux, quoi qu'il en coûte, c'est la priorité de l'État. Et les syndicats, effectivement, en ont profité à fond. Les menaces de grève ont été une arme redoutable, Mathilde Piquet.
Oui, les primes se suivent et se ressemblent. Entre 500 et 1500 euros dans la fonction publique, 1000 euros à la RATP et jusqu'à 1900 euros dans les forces de l'ordre. Des résultats obtenus grâce à une menace, la grève en plein Jeux Olympiques. Christian Grolier, secrétaire général de FO Fonctionnaires, assume cette nouvelle arme de négociation.
Le contexte des Jeux Olympiques change la donne dans la mesure où, pour nous, c'est un moyen de pression qui n'arrive qu'une fois tous les 100 ans. Il est évident qu'on utilise cette période des JO pour que le gouvernement nous entende davantage. Il n'y a pas de raison que ce soit une fois de plus les fonctionnaires qui payent.
Et parfois, les avancées vont même au-delà des Jeux. À la SNCF, les négociations sont toujours en cours, mais un accord sur les fins de carrière a déjà été obtenu. Thierry Nière de la CGT Cheminots.
Il y a aussi cet événement des Jeux Olympiques qui fait que ça a constitué certainement un moyen de pression. C'est un accord qui va permettre, y compris après les JO, de pouvoir faire bénéficier aux cheminots de bonnes conditions de départ anticipé.
Ces avancées font aussi des envieux. Les éboueurs et les hôpitaux publics réclament eux aussi des compensations.
Merci beaucoup Mathilde Piquet.
Les syndicats qu'on retrouvera dans la rue aujourd'hui.
Oui, en ce 1er mai, 250 manifestations sont prévues un peu partout en France. Le 1er mai, c'est la fête du travail, une fête pour les ouvriers. À l'origine, née aux États-Unis à la fin du 19e, à l'époque où les syndicats se battaient en l'occurrence pour la journée de 8 heures. La tradition perdure, même s'il y a de moins en moins de cols bleus, notamment en France. En 40 ans, par exemple, le nombre de cadres a dépassé le nombre d'ouvriers. Écoutez cette illustration avec ce reportage de Perrine Roguet à Lille.
Il est 16h lorsqu'Ahmed range ses affaires dans le coffre de son utilitaire. Cet ouvrier du bâtiment le sait, son métier n'attire pas forcément les plus jeunes.
Quand ils voient quelqu'un habillé comme nous, ils se disent « Ah, c'est sale, c'est dur !» Alors que non, c'est juste un costume qu'on revêt le matin et qu'on enlève le soir. Et après, on est une personne lambda.
D'un père soudeur, c'est finalement son oncle qui donne à Ahmed le goût du travail sur les chantiers, qu'il transmet lui-même à son fils, Irfan, 22 ans.
J'ai toujours vu travailler. Il m'a pris avec lui sur quelques chantiers pour me montrer. Ça m'a donné envie dès le plus jeune âge. Bah, on se réveille à 5h pour commencer à 8h avec les bouchons comme on a un peu de route. Et voilà, on travaille jusqu'à midi, on a une pause à 13h et on reprend jusqu'à 16h.
Tous les deux sont chargés de fabriquer et poser des baies vitrées et fenêtres. Ahmed compte bien transmettre des valeurs fortes à son fils.
L'honnêteté, la rigueur, l'assiduité et l'ambition. Il y a beaucoup de choses à apprendre et beaucoup de personnes à rencontrer.
D'un chantier à l'autre, ce père de famille perpétue un esprit hérité des plus anciens. Parmi ses 4 enfants, un seul a suivi la branche du bâtiment.
Merci beaucoup Perrine Roguet. À retenir également dans l'actualité, et pour le plaisir, oui. On va se mettre à la place de celui ou celle qui se réveille ce matin avec dans sa poche la grille.
Oh là là.
Un seul vainqueur hier, l'euro million, 166 millions d'euros donc. Oui. Alors on sait que le ticket a été acheté en France, quelque part, on sait que c'est pas nous.
Non, on a fait une grille tout faux.
On serait au courant, et tiens, juste pour lui donner un petit coup de main au vainqueur, avec l'argent, il peut s'acheter l'île de Blue Island aux Bahamas, 70 millions, c'est ravissant, j'ai vu les photos.
Il en garde un peu pour entretenir.
Voilà, et pour y aller, un Airbus à 320,
oui.
90 millions, et puis il reste 6 millions pour le pique-nique.
Oui, voilà. Il y a quand même des petits frais dans tout ça.
Voilà, c'est ça. Le carburant, c'est ça, exactement.
Le pique-nique, ça me tente bien.
Nous, on donne des conseils, il faut le suivre. Allez, un peu d'argent aussi, mais moins pour les naufragés de la 13. L'autoroute va rester fermée au moins jusqu'au 11 mai à cause des fissures. Eh bien, l'État va prendre en charge 50% du prix du péage de l'autoroute A14, qui est l'itinéraire bis, mais seulement pour les covoitureurs seulement. Et c'est 10,60€ l'entrée sur l'A14. À retenir à l'étranger, la police de New York est entrée cette nuit dans l'université Columbia pour déloger des manifestants pro-palestiniens qui avaient investi le campus. Il y a eu une cinquantaine d'arrestations. Et puis à Gaza, le chef des affaires humanitaires de l'ONU met en garde à nouveau une opération terrestre de l'armée israélienne dans la ville de Rafah serait une tragédie sans nom, alors que le secrétaire d'État américain Anthony Blinken est en Israël en ce moment, déterminé, dit-il, à obtenir maintenant un accord de trêve entre Israël et le Hamas.
En Ukraine, l'armée de Kiev tient comme elle peut.
Oui, le manque de munitions et de matériel se fait cruellement sentir. Les Russes avancent, mais ne parviennent pas, malgré tout, pour le moment, à mener de percées décisives, Émilie Beaujard.
Oui, depuis la chute d'Avdiivka en février, l'armée russe regagne effectivement du terrain, notamment dans le Donbass à l'est. Elle se rapproche dangereusement de Tchassiv Yar, la ville où est stationnée l'artillerie ukrainienne et dont une partie a dû reculer. Des avancées réelles, mais pas significatives, prévient Thibaut Fouillet, directeur scientifique à l'Institut d'études de stratégie et de défense.
Ces avancées restent confinées à quelques kilomètres, par-ci, par-là, avec de très grosses pertes, avec un blocage tactique. Donc, les gains sont extrêmement difficiles à faire, extrêmement lents. La prise d'Avdiivka, c'est plus de 5 mois et demi d'efforts russes.
Mais en face, les Ukrainiens sont contraints à une position défensive à cause du manque d'hommes et de munitions. C'est pourquoi lundi, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a rappelé qu'il fallait rapidement une arrivée d'armes occidentales.
Artillerie calibre 155, armes de longue portée et défense antiaérienne. C'est ce que nos partenaires ont et c'est ce qui devrait maintenant fonctionner ici en Ukraine pour faire échouer l'offensive russe.
En attendant, les Ukrainiens construisent des centaines de kilomètres de fortifications autour des villes stratégiques du Donbass et de l'Est du pays.
Merci beaucoup, Émilie Beaujard.
Je frétille, le PSG est à Dortmund ce soir.
Oui, demi-finale allez, de la Ligue des Champions. Le PSG qui est en grande forme en ce moment, on peut le dire comme ça.
Oui, je crois qu'on peut le dire, oui.
Et qui espère en tout cas pouvoir compter sur l'un de ses hommes en forme, en l'occurrence, Ousmane Dembélé, Philippe Sanfourche.
Oui, Dembélé, le dribbleur fou, le casseur de reins, mais qui exaspérait jusqu'alors par son manque d'efficacité. Le voilà, serial buteur depuis un mois, 4 réalisations, dont 2 face à Barcelone, aussi saillant sur les pelouses que nuancé devant les micros.
Il y a eu des bonnes séquences, des moins bonnes, mais voilà, on essaie de monter en puissance.
Avec une motivation XXL à l'heure de retrouver encore un de ses anciens clubs, le Borussia Dortmund, où il avait explosé aux yeux de l'Europe en 2017. À son nom, les supporters se souviennent et craignent les retrouvailles.
Les gens, ils ont peur parce que les défenseurs de Dortmund n'est pas rapide. Et contre Dembélé, c'est zéro chance.
Écœurer Dortmund et conquérir Paris dès sa première saison, c'est l'autre enjeu pour Ousmane Dembélé, succéder à Kylian Mbappé dans le cœur des supporters.
Merci Philippe Sanfourche, on vous retrouve au stade aux commentaires avec Nicolas Georgerot ce soir. RTL Foot spécial Ligue des Champions, ce sera dès 20h autour d'Eric Silvestro. Le Real Madrid et le Bayern Munich ont fait match nul hier de partout. Et puis d'un mot, Nadal a fait ses adieux au tournoi de Madrid hier sur terre battue. Il a été éliminé en 8e de finale. Plutôt satisfait de son tournoi, mais il reste incertain pour Roland Garros. Aucune décision n'est prise à l'heure où on parle.
Merci beaucoup Olivier Bois qui nous proposait le journal de 8h sur RTL. Il est 8h bientôt. 14 minutes. Louis Bodin, la météo.
Oui, avec beaucoup d'humidité encore, à tel point qu'il n'y a jamais trouvé du brouillard ce matin. Vous voyez, comme au mois de mars, à Blois, à Vichy, à Tours, au Mans, à Charleville-Mézières, Saint-Étienne, parfois à moins de 100 mètres de visibilité. Tout ça avec beaucoup de pluie dans la moitié sud ou encore près de l'Atlantique. Et ces pluies vont finir par concerner toutes les régions à un moment ou à un autre. Des pluies orageuses ce soir attendues entre la Bourgogne, l'Île-de-France, la Picardie et la Normandie. Attention, hein, de fortes précipitations sous forme de pluie ou de grêle. Une exception, la plaine d'Alsace où là le soleil devrait devrait résister. Puis côté température, gros contraste entre l'ouest et l'est. C'est ce qui explique d'ailleurs l'activité orageuse attendue ce soir. 13 à 15 degrés seulement dans la moitié est. Nous revoilà en dessous des moyennes de saison. 16 à 22 degrés dans la moitié est. Là, c'est mieux. Et 23 à 26 degrés même en pleine d'Alsace.
Ce qui nous a valu le commentaire de Cyprien Sini il y a quelques instants, c'est la Toussaint.
Ouais.
Voilà. Bon, on se retrouve à 8h30 pour la météo à 7 jours hein, pour cette belle Toussaint.
RTL vous explique.
Et avant de retrouver Cyprien Sini, comme chaque matin, on s'arrête sur un point de l'actualité. RTL vous explique aujourd'hui les règles pour vendre du muguet ce 1er mai. Faut dire que c'est le jour ou jamais. Bonjour Armel Lévy.
Bonjour.
Bon, est-ce que tout le monde peut vendre son brin de muguet ?
Oui, le 1er mai, c'est le seul jour de l'année où tout le monde, vous et moi, pouvons vendre de jolis brins de muguet après les avoir cueillis. Mais le 1er mai, c'est vraiment le seul jour autorisé. On ne pouvait pas en vendre hier et on ne pourra pas en vendre demain.
Et est-ce qu'on peut s'installer où l'on veut ?
Non, vous ne pouvez pas arriver comme une fleur pour vendre vos jolies clochettes devant la boutique d'un fleuriste. Vous devez vous installer à une distance d'au moins 40 mètres d'un commerce spécialisé s'il est ouvert. Pour ne pas lui faire trop de concurrence, les Français dépensent près de 20 millions d'euros au 1er mai pour acheter du muguet, que ce soit chez les fleuristes ou en supermarché. Et comme les installations fixes sont réservées aux professionnels, vous n'avez pas le droit non plus d'utiliser une chaise, une table ou des tréteaux pour vendre votre muguet, sous peine d'amende, autour de 300 euros quand même. Puis bien sûr, quand vous choisissez votre emplacement, vous ne devez pas gêner la circulation des piétons et des véhicules.
Et alors, on peut vendre n'importe quel type de muguet ?
Non, uniquement du muguet sauvage, sans racines et sans emballage. Vous n'avez pas le droit d'y ajouter d'autres fleurs, puisque les compositions florales sont l'apanage des professionnels. Vous pouvez vendre du muguet de votre jardin ou du muguet cueilli dans les bois, mais pas en grande quantité. La cueillette doit être raisonnée et respectueuse du milieu forestier. La règle de l'Office national des forêts, c'est de ne pas ramasser plus de 10 à 15 tiges par personne, c'est-à-dire pas plus que ce que la main peut contenir. Et si le muguet est un porte-bonheur, il n'en reste pas moins une plante toxique. Veillez à ne pas laisser vos enfants ni les animaux de compagnie jouer avec les clochettes pour éviter qu'ils les ingèrent.
La dernière question, Armel, est-ce que je peux le vendre au prix que je veux, ce muguet ?
Oui, les prix sont libres en France, donc c'est vous qui décidez. Généralement, sur les trottoirs, le joli brin est vendu entre 2 euros et 2,50 euros. Et je rappelle que les recettes engrangées par la vente de votre muguet aujourd'hui ne seront pas imposées.
Oui. En même temps, comme on a pas le droit à 10 ou 15 tiges par personne. Merci beaucoup, en tout cas, Armel. On aurait pu faire un petit stand devant RTL. On y pensera pour la
prochaine. Mais alors, vous avez du muguet dans votre jardin ?
Bah, non, j'ai pas de jardin.
Vous avez pas de jardin.
C'est le jour du marché, en plus. Signal.
Oui, c'est vrai.
Enfin, bon, moi. Alors.
RTL Matin, le surf de l'info.
Bonjour Cyprien Sini.
Ben bonjour à tous.
On fait ce matin avec les amendes routières. Elles n'ont jamais autant rapporté à l'État. Ouais.
Mais oui.
Record battu.
Oh, c'est incroyable.
Incroyable, plus de 2 milliards d'euros en 2023. Du jamais vu. Une augmentation de 7% par rapport à l'an dernier grâce... Et bien grâce à nous.
Les Français dépassent les vitesses autorisées, respectent aussi de moins en moins les distances de sécurité.
Ouais, bon, on conduit n'importe comment, quoi. Mais surtout, on se fait aussi de plus en plus attraper.
Ah. Monsieur, bonsoir. Le stop. Vous n'avez pas marqué l'arrêt au stop.
Et pour le stop, comment ça, le stop ? Je n'ai pas grillé le stop.
Bien sûr. De toute façon, désormais, sur les stops, il y a des radars aussi. Si, si.
Est-ce que vous savez, ce stop, il a quelque chose de particulier ?
Oui, il a un radar.
Il est juste au-dessus, là. On le voit bien.
Eh oui, de toute façon, il y a des radars partout, partout. Et pour tout, c'est un peu pour ça que ça grimpe aussi. C'est la valse des radars.
Radar fixe.
Les radars vitesse moyenne.
Radar double sens.
Les radars de chantier.
Radar discriminant.
Les radars de passage à niveau.
Radar tronçon.
Les radars pédagogiques.
Radar mobile. Radar embarqué. Radar de feu rouge.
Et encore, on n'a pas l'arme absolue. Le vélo laser.
Indétectable, il mesure seulement 50 cm et pèse environ 2 kg. Le vélo laser peut enregistrer 3 infractions à la seconde dans les deux sens de circulation. Il est prêt à l'emploi en moins d'une minute, fonctionne de jour comme de nuit.
Ouais, c'est bon, n'en jetez plus. Une machine de guerre, pour l'instant, il n'existe qu'en Espagne. Et donc, les 4661 radars en France tournent à plein régime. Mais alors attention, comme l'avait précisé la sécurité routière.
Nous estimons que 30 000 vies ont été épargnées et je peux vous assurer une chose. Jamais nous ne plaçons un radar pour rapporter de l'argent.
Bon, voilà, jamais. On en revient à notre conduite. Et c'est vrai que nous, Français, on a un rapport un peu particulier au code de la route parfois.
un échangeur. Vous voyez ce que c'est?
Oui, ce sont des personnes qui échangent leur partenaire, leur mari ou leur femme ou leur amant et leur maîtresse.
Oui, madame.
Moi, je ne suis pas d'accord parce que je suis la vieille école.
C'est vrai qu'on a deux, trois lacunes parfois de la route. Et c'est vrai qu'en plus...
Il est tout à fait facile de respecter les limitations de vitesse. Je rappelle que tout radar fixe est précédé d'un panneau. Donc, c'est à chacun de prendre sur soi pour y faire attention.
Ah oui, voilà. D'ailleurs, c'est ça qui rend encore plus agaçante l'amende. Et comme chez l'automobiliste français, on n'est pas sur une grosse remise en question. Hein.
95% d'entre eux ont une bonne image de leur propre conduite.
Bah, évidemment, on se dit que les caisses de l'État peuvent vraiment compter sur nous pour l'avenir.
Merci beaucoup, Cyprien. On vous retrouve ce soir, RTL, bonsoir, 18h, même avec le 1er mai.
Ah bah évidemment, ce 1er mai, fête du travail, il y aura le numéro 1 du PC, Fabien Roussel avec nous, évidemment. Et puis un grand débat PSG, Paris est-il un grand d'Europe? Et puis vos humoristes, Alex Vizorek et Marc-Antoine Lebray sur le pont, les jours fériés.
Formidable, l'autorité avec les enfants ne doit plus être un tabou, mais une nécessité. C'est ce que nous dit le psychologue Didier Pleu, il est avec nous dans un instant. Il publie L'autorité éducative, une urgence aux éditions Odile Jacob. A tout de suite sur RTL.
RTL Matin, Amandine Bégaud et Yves Calvi.
Chez BYD, nous croyons en vos rêves, le rêve d'atteindre vos objectifs. Pour cela, BYD développe depuis 30 ans son expertise dans l'innovation pour vous proposer une mobilité décarbonée en toute sécurité avec des véhicules électriques nouvelle génération. Chez BYD, nous sommes l'harmonie entre technologie, design et exigence. Build your dreams. Donnez vie à vos rêves. Retrouvez votre concessionnaire BYD sur byd.com/fr.
Pensez à covoiturer.
Quand il y a autant d'enjeux, que l'erreur n'est plus une option, quand son destin se joue en deux matchs, qu'il ne reste plus que quelques marches à gravir pour atteindre le sommet de l'Europe, le football devient encore plus intense. Retrouvez les demi-finales de l'UEFA Champions League avec Dortmund, Paris SG, ce soir à 21h sur Canal+, et Canal+, Foot. Rendez-vous sur boutique.canalplus.com.
Pour certains, le bonheur, c'est de tout posséder. Pour d'autres, de tout partager. Pour Maxiso, le bonheur, c'est de tout donner. En ce moment, pour votre félin, le sac de croquettes Royal Canin 4 kg pour chat stérilisé est à seulement 36,99€. 36,99€ au lieu de 39,99€, soit 9,25€ le kilo. Car nous sommes heureux quand vous l'êtes. Maxiso, tout pour vos animaux. Réélu meilleure chaîne de magasins 2024, catégorie animalerie, aliments pour animaux. Offre valable jusqu'au 8 mai en magasin et sur maxiso.fr.
RTL Matin, 7h, 9h.
Il est 8h21, bonjour Didier Pleu.
Bonjour.
Vous êtes psychologue, psychothérapeute, spécialiste de l'éducation des enfants et vous publiez L'autorité éducative, une urgence aux éditions Odile Jacob. Le livre paraît demain. Il est urgent pour les parents de retrouver le bon sens éducatif, nous dites-vous. On est bien d'accord, c'est pas une question, hein, c'est une affirmation.
Oui, parce que je voyais ça avec un chauffeur de taxi ce matin, il me parlait d'éducation, il était dans le bon sens. Il me disait, j'ai toujours été sévère, il me remercie. Le bon sens, c'est pas se laisser piéger par toutes les hypothèses qu'on nous a mises dans le depuis des décennies.
Qu'observez-vous, vous, dans les consultations avec les enfants et accessoirement leurs parents, bien entendu?
Ce que j'observe,
c'est ce qu'on observe. L'autorité.
C'est ce qu'on observe malheureusement tous les jours. Il y a des incidents de plus en plus violents, des choses comme ça, et je le vois en consultation. Les enfants ou les ados viennent plus pour des problèmes de dépression, d'estime de soi, ils viennent colère pour les tout-petits, et les autres, décrochage scolaire, addiction multiple, etc. Donc des problèmes, moi, que j'appelle des problèmes d'intolérance aux frustrations, et qui, selon moi, viennent de carence éducative, pas de carence affective, comme on nous a tout le temps enseigné.
Carence éducative, je vais y revenir. Alors, du coup, est-ce que ça s'apprend, l'autorité, Didier Pleu?
Moi, je crois que ça s'apprend, c'est pour ça que j'ai ce petit guide pour dire aux parents, mais non, c'est pas une histoire génétique de j'ai un tempérament fort et je suis sévère comme ça. Non, non, ça s'apprend, c'est-à-dire est-ce qu'on peut tenir compte des bonnes choses qu'on a apprises depuis les hypothèses psycho des dernières années sur la bienveillance, l'empathie, le respect de l'enfant, on est d'accord, mais est-ce qu'on peut aussi apprendre à être à la verticale de l'enfant pour l'élever? À dire qu'on peut proposer, qu'on peut transmettre, qu'on peut être conflictuel, qu'on peut être contraignant, qu'on peut être sanctionnant. C'est ça que les parents ont oublié. C'est la deuxième partie. Amour, mais pas de frustration.
Moi, un doute quand même. C'est une bonne chose, la bienveillance?
C'est une bonne chose, oui. Mais vous savez, bienveillance, la définition, c'est compréhension et indulgence. Compréhension, oui. Je suis d'accord. Indulgent, non. Quand un enfant commence à passer 5 fois les passages à niveau, boum.
Alors, quelle autorité d'ailleurs? Parce que même quand il se rebelle, l'enfant en a besoin. Ça le rassure, non, l'autorité, d'une certaine
façon? C'est sécurisant, l'autorité. C'est ce que j'arrête pas de dire. En fait, Je ne veux pas dramatiser, mais s'il n'y a pas d'autorité dans les familles, c'est l'ouverture à la toute-puissance de l'enfant. Parce qu'on nous a toujours dit que l'enfant était victime, que les parents étaient traumatogènes. Attention, le père castrateur, faut se rebeller. La mère fusionnelle, elle va l'anéantir. Non, l'autorité, elle est bonne parce qu'elle arrête ce qu'on appelle ce fameux principe de plaisir, le striatum chez l'enfant. Vous savez, il y a un noyau accumbens dans le cerveau qui fait qu'on est addict au plaisir.
Oui.
S'il n'y a pas quelqu'un qui aide l'enfant à s'empêcher, parce que Camus disait dans son bouquin « Un homme, ça s'empêche », moi je dis qu'un homme a beaucoup de mal à s'empêcher. Alors vous imaginez un petit enfant quand il est dans le principe de plaisir, c'est tout de suite, ça s'apprend.
Vous êtes en train de nous dire que l'autorité, c'est pas un gros mot, que ça doit plus être tabou si
Non, ça doit plus être tabou. Moi je fais partie des générations 68, on a tout viré, ni Dieu ni maître, parce qu'il était temps. Nous on était sous la coupole des blouses grises, des baffes pour les divisions par deux, d'un pater familias, etc. On a dit non, mais on a été trop loin. C'est tard, on a confondu autoritarisme et autorité.
Alors, est-ce que nos jeunes Français vont de moins en moins bien? Je vous pose la question. Et si oui, comment l'expliquez-vous?
Ils vont pas tous moins bien, il y en a quand même qui vont bien. Alors, oui. Quand même. Mais c'est vrai que il y a 22 ans, j'écrivais de l'enfant roi à l'enfant tyran. On me disait, mais tu es un peu réac avec tes trucs, ta vision des enfants. Oui. Eh ben non, je vois de plus en plus de petits nasillons dans les familles, et surtout à l'école, parce qu'il n'y a pas que l'autorité faible dans les familles. L'école, ça va pas du tout non plus.
La faute à qui, à quoi? Je rappelle que vous êtes auteur de l'éducation bienveillante, ça suffit. Hein. C'était chez Odile Jacob. Ça nous donne une petite idée
de l'éducation bienveillante.
Oui.
Faut arrêter avec ça. Quoi. Le mot, on peut être gentil, bienveillant, empathique, mais faut aussi être, je répète, dans une hiérarchie. On a toujours dit démocratie familiale. Non, pas de démocratie dans les familles. Qu'on respecte les enfants, mais pas de démocratie. C'est ce souci d'égalité jeunes, vieux, enfants, parents. Il n'y a pas d'égalité. Je suis désolé.
Vous travaillez sur ces questions depuis des années. Pourquoi les parents ont-ils tant de mal à faire preuve d'autorité? Il y a un malaise, il y a un non-dit, il y a une perte de valeur, je ne sais pas, ils sont eux-mêmes perturbés. Enfin, vous comprenez ma question?
Oui, je pense qu'il y a aussi des parents qui sont assez intolérants en frustration, hein, qui ont la même pathologie que leurs enfants, qui n'aiment pas trop être conflictuels, parce que c'est fatigant d'être parent. Mais je crois aussi qu'on est victime de notre culture. Hein.
C'est-à-dire
le français est rebelle, hein. On est un peu régicide. Donc autorité, c'est un vilain mot quand même. Donc il y a cet aspect culturel, et puis je crois que malheureusement, toutes les lectures depuis 30 ans en psychologie de l'enfant vont dans le sens de « attention, l'enfant est fragile, attention, inconsciemment, vous pouvez faire mal », et les parents sont paumés, parce qu'ils se disent « un peu comme disait Freud, quoi que je fasse, ça te passera mal. »
Ben justement, peut-être qu'on est terrorisé par la peur de mal faire en tant que parent.
Oui, mais c'est...
Donc vous nous dites ce matin, quoi qu'il arrive, de toute façon, vous ferez mal, au moins...
Et... Non, ça c'est Freud
mettez,
qui disait
mais, ça. Non, mais mettez des limites aux enfants, je sais pas, expliquez-nous.
Non, il faut mettre des limites, et puis c'est pas parce que l'enfant va vous regarder avec un air de dire qu'il vous aime pas à ce moment-là. Ben, il faut accepter ça. Le désamour, parce que on n'est pas là pour se faire aimer.
D'accord, faut accepter
le désamour. On est là pour élever.
Dites donc, en fait, ce sont les parents qui ont des carences affectives pour les enfants, du moins au départ, j'ai envie de vous dire.
Non, mais ça, c'est la version classique, que les parents, s'ils sont gentils, c'est quand même en ont souffert, etc. Non, je crois que c'est plutôt qu'ils ont des carences eux-mêmes éducatives de temps en temps, parce que si un parent n'a pas connu l'autorité, je vois pas comment il pourrait en faire un peu à la maison.
Vous aurez remarqué quand même que le gouvernement ne cesse de brandir le mot autorité en ce moment, souhaitant son retour partout, et notamment à l'école. C'est le rôle de l'école d'affirmer l'autorité? Ça devrait peut-être commencer à la maison, non?
Ça commence à la maison, mais il faut que ça continue à l'école, parce que là aussi, on a eu des pédagogies centrées sur l'élève, des tas de choses comme ça. On parle même de pédagogie ludique. Mmh. Non, je suis assez favorable à cette histoire de remettre des notes, de remettre le redoublement. Il peut pas avoir d'autorité sans sanction. On n'a pas dit autoritarisme, mais il faut des conséquences. Et ben, quand on travaille pas à l'école, on passe pas dans la classe supérieure, c'est tout bête. Et puis quand on fait rien, on a une mauvaise note. Et quand on fait bien, on a des bonnes notes. Tout ça a été abandonné au profit de... Il faut lui apprendre à vivre. Non, moi je suis comme Anna Arendt, on apprend le réel, pas le développement personnel ou l'art de vivre à l'école.
Les mesures annoncées par le Premier ministre vous semblent justes?
Oui, attention, parce que j'ai entendu les secrétaires d'État qui disaient qu'il fallait fouiller dans les portables. Donc attention, on va avoir un mouvement de balancier là. Et puis j'ai entendu aussi qu'il y aura peut-être une loi pour les portables. Il faudra aussi une loi pour ranger la vaisselle, une loi pour les devoirs du soir, une loi pour se coucher, une loi pour... Non, faut faire attention. S'il faut un flic dans chaque maison, c'est pas ça que je demande.
L'autorité éducative, justement, entre le refus du personnel enseignant d'intervenir pour gérer les incidents et ainsi éviter les conflits, et le recours à un autoritarisme, on va dire, daté, vous l'évoquiez vous-même il y a quelques instants en disant « moi je suis un 68A », exigé notamment à droite, comment on trouve un juste milieu et un équilibre dans tout ça?
Le juste milieu, c'est ce que j'appelle l'autorité juste, c'est-à-dire est-ce qu'on peut effectivement tenir compte que l'enfant n'est pas un légume, que l'adolescent ça se respecte, mais est-ce qu'on peut aussi contredire l'adolescent en crise qui doit se rebeller, tuer le père pour aller mieux? C'est toutes ces choses-là. Il faut ne plus écouter les sirènes des dogmes psy, avoir du bon sens et puis surtout renouer avec la bonne autorité qui je t'aime, je frustre, mais je t'aime. Voilà, les deux.
Les deux coexistent.
Oui, mais même si j'aime pas trop le causer ensemble, on peut faire les deux.
Au fond, les questions sont toujours les mêmes. Quelles limites imposer à un enfant? Comment les faire respecter sans violence et dans son intérêt? C'est pas peut-être... Visiblement, nous adultes aujourd'hui, on a un petit peu de mal à assumer tout ça et à trouver l'équilibre. On est perturbé en tant que tel?
Oui, parce que de toute façon, ce qu'on confond, c'est pour ça que j'ai peur quand on est dans l'autoritarisme, c'est-à-dire oui. qu'on est souvent en colère quand un enfant transgresse ou passe les feux rouges, ne nous obéit pas. Donc c'est là qu'il faut aider les parents. En colère, ça veut dire il devrait m'obéir, autoritarisme. Non, être soft, c'est de se dire je souhaiterais que mon enfant, mais s'il a un tempérament fougueux, il y a de grandes chances qu'il va falloir que je passe par la case autorité. Il faut aider les parents à baisser l'émotionnel parce qu'ils ont peur de ça, d'être violents, d'être de sanctionneurs un peu trop disproportionnés. Il faut leur dire non. N'écoutez pas ceux qui vous disent que la bienveillance ça suffit. N'écoutez pas vos émotions. Il va falloir travailler ensemble sur du concret, c'est-à-dire un enfant, il a besoin d'être construit dans la frustration.
Qu'est-ce qui vous frappe quand vous recevez aujourd'hui des familles dans vos cabinets?
Bah, ce qui me frappe, c'est ils sont perdus, ils sont complètement perdus. Là, encore une dame qui a demandé un rendez-vous pour son enfant de 3 ans qui pique des crises tout le temps et puis au téléphone elle expliquait mais j'essaie de voir, il y a peut-être un sens derrière. On m'a dit que il y avait pas de caprices chez les enfants de 3 ans. J'ai dit mais si, il y a des caprices, il y a que des caprices chez les enfants de 3 ans. Ici, quand ils piquent des colères, c'est pas parce que ils sont en détresse existentielle, c'est parce qu'ils veulent un bonbon, ils veulent dormir, ils veulent un câlin.
Et donc, à cette maman, vous allez l'aider à apprendre ce qu'on appelle l'autorité.
Oui, parce que vous voulez
pour moi la chose la plus difficile.
Et vous voulez que je prenne son enfant. Donc, je dis non, je peux pas. Mais je vais faire de la guidance parentale. Je vais vous aider, madame.
Guidance parentale.
Oui.
Ça veut dire quoi?
Ben, ça veut dire que je vais aussi faire autorité auprès de cette dame-là.
Merci beaucoup, Michel Pleu. Vous êtes psychologue, psychothérapeute et votre livre, L'autorité éducative, une urgence, paraît donc demain aux éditions d'Ile Jacob. Bonne journée à vous.
Merci beaucoup.
Bon, la bonne nouvelle, c'est que ça s'apprend.
Oui, ça vous travaille.
Moi, ça me rassure.
Oui, très bien.
8h30 sur RTL, l'essentiel de l'actualité dans un tout petit instant. Et puis la météo, Louis Baudin, bon, bah ça...
Oui, j'imagine, mais peut-être un peu moins mal ce week-end quand même. Allez.
Amandine Bégaud, Yves Calvi.
RTL Matin jusqu'à 9h.
Lidl, réélu encore et encore, meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie fruits et légumes.
Allô patron, il est à 79 centimes.
Le concombre?
Eh oui, en ce moment chez Lidl, le concombre est à 79 centimes la pièce.
Ils sont encore et toujours moins chers que nous.
Et le deuxième est à moins 50%, soit 39 centimes le concombre. Ça revient à 1,18€ le lot de deux.
Oh, ils s'encombrent vraiment pas. On est mal.
Bah, c'est le concombre.
Lidl, partenaire officiel de l'UEFA Euro 2024. Catégorie 1, Origine France. Plus d'informations sur Lidl.fr.
Là, vous entendez. Et vous montez le volume. Parce qu'avec tous ces ponts qui arrivent, vous vous dites que chez Leroy Merlin, ils vont sûrement faire des offres exceptionnelles dans tous les rayons. Alors là, quand j'annonce que pendant l'opération Tous sur le pont jusqu'au 14 mai, il y a des offres exceptionnelles dans tous les rayons, là vous criez, je le savais, avec Leroy Merlin, ça ne rate jamais.
Leroy Merlin, on peut tout construire ensemble, même l'avenir.
Voir conditions en magasin ou sur leroymerlin.fr.
Il était une fois un charmant jeune homme super stressé par l'arrivée imminente de sa dulcinée. Vite, vite, une idée pour dîner. Oh, les tomates rondes en grappe Origine France à 1,99€ le kilo chez Aldi. C'est parti pour la recette adorée de sa belle, les tomates à la provençale. Eh, t'as géré, mec. Aldi, place aux nouveaux consommateurs. En ce moment chez Aldi, vendu en vrac, offre valable jusqu'au samedi 4 mai. Info sur aldi.fr.
RTL Matin.
8h32, l'essentiel de l'actualité. Rachel Sadoudi.
270 manifestations prévues dans toute la France pour la fête du travail aujourd'hui. À Lille et Lyon, le rendez-vous est donné dans 2 heures. À Paris, c'est à 14h. 150 000 personnes attendues dans tout le pays, selon les renseignements qui prévoient des rassemblements plus calmes que ceux de l'an dernier, agités par le mouvement contre la réforme des retraites. Le 1er mai, c'est aussi, bien sûr, le traditionnel brin de muguet. Tous les Français sont autorisés à en vendre. Et pour Muriel, retraité à Vannes, ça permet de mettre du beurre dans les épinards.
Le muguet, il vient de Tréfléham, voilà, du jardin. Bon, il est très beau cette année, un petit peu fleuri, mais il est magnifique. C'est très bien comme ça. Pour l'instant, c'est calme, mais d'ici un moment, avec le marché, il y aura du monde qui va arriver.
Vous venez là tous les ans?
Oui, ça fait bien 15 ans que je viens, ou 20 ans. Oui, tous les ans, au même endroit, quand c'est possible. C'est un porte-bonheur. Et puis là, en étant à la retraite, eh bien, ça permet de faire un petit peu d'argent, surtout avec l'augmentation de l'essence. Effectivement, ça va faire du bien. Bonne journée à vous tous. Merci.
Et merci à Muriel, retraitée bretonne au micro RTL de Nicolas Bobby. Elle vend son muguet 3€ les 3 brins, et ça pour la journée seulement.
L'appel d'Anouk Grimbert à Gérard Depardieu sur RTL.
Invitée d'RTL Bonsoir hier, l'actrice est l'une des rares à dénoncer publiquement les agissements de Gérard Depardieu, qui, je le rappelle, va être jugé pour agression sexuelle en octobre prochain. Anouk Grimbert lui demande d'assumer et de demander pardon.
Gérard Depardieu, qui est quand même connu pour être un très bon acteur, ça serait pas mal qu'il se dise que là, il y a le film de sa vie à jouer. Il y a trop de témoins pour nier. Il faut qu'il accepte de dire « pardon, mesdames, pardon ». Et qu'il prenne conscience de sa brutalité, de sa sauvagerie, et qu'il accepte, presque artistiquement, qu'il accepte son destin d'homme important dans l'histoire, la très grande histoire.
Déjà mis en examen pour viol, Gérard Depardieu a toujours contesté toute violence à l'encontre des femmes.
Dans l'actualité également, cette évacuation musclée cette nuit à l'Université de Columbia aux États-Unis.
Karine Houghton, vous êtes la correspondante de RTL à New York, où la police a délogé des dizaines d'étudiants pro-palestiniens qui occupaient le bâtiment.
Un véhicule renforcé, quasiment blindé, impressionnant, qui s'est approché de Hamilton Hall. À l'intérieur, on le sait, une soixantaine d'étudiants au moins s'y sont barricadés. Ils ont utilisé des distributeurs de boissons, des bancs, des tables pour bloquer les accès. Mais les policiers ont réussi à s'introduire par une fenêtre du deuxième étage, depuis une rampe d'accès fixée sur le toit du camion. La police assure ne pas avoir utilisé de gaz lacrymogène, mais des grenades paralysantes pour les disperser. Pas tellement de résistance ou de violence non plus, selon les images auxquelles on a pour l'instant accès. On a vu des dizaines d'étudiants, mains nouées derrière le dos, se faire fouiller avant d'être embarqués dans des bus de police. Et après l'évacuation du bâtiment occupé, la police a commencé à démonter les tentes plantées sur le campus depuis 13 jours. Ce campement d'où tout le mouvement de protestation était parti.
Karine Houghton, correspondante de RTL aux États-Unis. On l'a appris ce matin, le plus français des auteurs américains, Paul Auster, s'est éteint à 77 ans des suites d'un cancer. Auteur de la trilogie new-yorkaise, vous retrouvez son portrait sur RTL.fr et l'application RTL.
Le football avec cette soirée spéciale Ligue des Champions sur RTL.
Et pour la demi-finale aller entre Dortmund et le Paris Saint-Germain. Et cette rencontre, on la vivra ensemble sur RTL en direct dès 20h dans RTL Foot. Éric Silvestro, Nicolas Georgiou et Philippe Sanfour chez le coup d'envoi, c'est à 21h.
Merci beaucoup Rachel Sadodine. Louis Baudin, la météo à 7 jours.
Oui,
ça débrouillez-vous mon
fils. C'est compliqué de se débrouiller avec ce temps très instable. Hein. On l'a dit aujourd'hui, encore de la pluie partout. Un risque orageux ce soir, attention, entre la Bourgogne, l'île de France et le Nord-Pas-de-Calais. Des averses orageuses, parfois assez fortes, hein, avec de la grêle. Demain, ça continuera à être très, très nuageux et pluvieux, là aussi, dans la plupart des régions. Hein. Donc, encore une journée de pluie, de la neige en montagne à partir de 1500 mètres, de la neige donc, qui tombera sur les Pyrénées et les Alpes. Et puis, des températures un peu fraîches pour la période, hein, entre 13 et 17 degrés demain dans toutes les régions. Donc, c'est 3-4 degrés en dessous des moyennes de saison, notamment dans la moitié sud. Et puis ensuite, allez, je vais essayer de trouver quelques bonnes nouvelles. Vendredi, certes, nous aurons encore des passages pluvieux, mais peut-être que les périodes d'accalmie seront un petit peu plus longues, donc un peu plus d'éclaircies quand on fera le bilan de la journée. Le tout avec des températures toujours un petit peu justes, hein, 15 à 17 degrés dans le nord, un peu moins de 20 degrés dans le sud. Et puis pour ce week-end, allez, il y aura probablement une demi-journée. Alors ça pourrait être le matin dans les régions de l'est, l'après-midi dans l'ouest, on aura un temps plus sec, plus ensoleillé, un petit peu plus agréable. Même chose pour la journée de dimanche. Donc vous voyez, c'est un peu moins mal. Je dis pas que c'est extraordinaire, hein, mais bon, je fais ce que je peux. Hein. Puis en début de semaine, si on a encore quelques averses lundi, il semblerait quand même qu'à partir de mercredi prochain, l'anticyclone daigne revenir de manière un petit peu plus costaud, un peu plus importante.
Je ne vous sens pas très convaincu.
Non, je ne suis pas très convaincu du tout. Non, bah, vous l'avez bien compris. Hein.
Voilà.
Et puis oui, avec la météo, on ne fait pas le malin, jamais.
Merci beaucoup, cher.
Bonjour Isabelle Morini-Bosque.
Bonjour tout le monde.
Quel est votre choix télé du jour?
Alors, Netflix, fiasco. Ah. 7 épisodes avec Pierre Ninet, Vincent Cassel, François Civil, Géraldine Nakache, ça se prend. Le thème, un cinéaste tourne son premier film qui tourne surtout au cauchemar. En racontant l'histoire de sa grand-mère résistante, il a tout prévu, sauf les imprévus, et en plus, il y a un corbeau. Alors on a une belle brochette, hein, le cuistot qui a perdu le goût, la maquilleuse qui en a jamais eu, l'acteur mégalo, la jeune première qui n'est pas la dernière, la régisseuse nympho fière de sa chatte, et je parle pas de l'animal, le copain bourrin qui dit de la grand-mère à son âge, ça doit sentir la litière dans le slibard, on dirait du Cavrivière, et le producteur naze, joué par Pascal de Molon. Alors lui, je l'adore. Et j'adore quand ruiné, furieux, il part de nuit, tombe dans une fosse et hurle, je suis au fond du trou. De Molon, il a le truc et pas le Molon. Fiasco lui doit beaucoup. Alors il y a un épisode de trop pour moi, mais un vrai scénario avec coup de théâtre et ça dénonce l'air du temps. C'est pour ça que j'aime et qu'on évite le fiasco.
Et donc c'est sur Netflix. Merci beaucoup Isabelle. Dans un instant, notre deuxième dose de Kevin Rivière.
Oui,
oui, tout à fait.
Oui.
Bon.
Docteur, vous êtes sage ce matin, 1er mai. Bon. Docteur Jimmy Mohamed, vous êtes venu, vous, avec une bonne nouvelle, une prise de sang pour détecter l'arthrose.
Oui, 8 ans avant l'apparition du moindre symptôme, pour ensuite quand même vous proposer quelques conseils.
Ah bah, j'espère bien.
Sacrée révolution, à tout de suite.
RTL Matin, jusqu'à 9h, avec Yves Calvi et Amandine Bégaud.
Maman m'a appris à toujours aller de l'avant, même dans les moments difficiles. Mais quand elle nous a quittés, j'étais bouleversé. Je savais pas quoi faire, ni par où commencer. Alors j'ai appelé le 32 urgence décès. Un conseiller PFG était là pour moi et il s'est occupé de tout.
En cas de décès, appelez gratuitement le 32. Une équipe urgence décès PFG vous répond 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour une prise en charge partout en France. Urgence décès 32, un service PFG.
Carrefour, pour les French Days, avec 100 euros de remise immédiate et 20% d'économie créditée sur votre carte Carrefour, le téléviseur Samsung LED 4K 145 cm revient à 399,99 € au lieu de 599,99 €. Et c'est jusqu'au 13 mai dans vos hypermarchés Carrefour et leur drive. Carrefour, on a tous droit au meilleur. Limité à 1800 pièces, référence TU58 CU7105, garantie légale 2 ans, détails sur carrefour.fr.
Hey, les industriels, si vous m'entendez, c'est grâce à vous. Oui, vous, les fabricants de matériel audio, d'énergie, de coton-tige. L'industrie est derrière chaque objet du quotidien. Et derrière l'industrie, il y a RS et son million de pièces livrables en 24 heures pour assurer la continuité de votre activité. RS, vous avez le savoir-faire, nous fournissons le reste.
RTL,
le deuxième œil de Philippe Cavrivière.
Notre deuxième dose, Philippe.
Oui, il est là.
Voilà, Cyril Lignac, en grande forme.
C'est le 1er mai, on est content.
Bah, on est content, oui.
C'est bien. Nous recevions, Philippe, ce matin, Michel Picon, le président de l'Union des entreprises de proximité.
Oui, moi, je suis comme Cyril Lignac, j'aime l'ambiance du 1er mai. J'aime parce qu'il y a un lien entre nous, les cons qui bossent. Non, mais tu vois, ça se joue dans le regard, dans l'œil. C'est un peu comme dans l'œil du bonobo passif qui vient de se faire ken par tout le groupe. Il y a une compassion. On se comprend les uns les autres. Oui, alors, l'invité du 1er mai, c'était Michel Picon. Oui. C'était notre premier choix. Bien sûr, il y avait Jean-Claude Suze qui tenait la corde, Christian Morest et Pascal Campari. Jean-Paul Tourtel a été rapidement écarté par Yves Calvi, qui nous disait à ce micro, l'alcool sans alcool, ça sert à rien. Et c'est vrai. Alors, je vous livre les coulisses de l'émission. Pour ma dernière intervention, j'ai eu une petite mésaventure. L'invité a changé à la dernière minute et on ne m'a pas averti.
Non.
Donc, j'ai dû écrire une chronique en urgence. Ce coup-ci, tout le monde a très bien fait son boulot. Hier, à 10h du matin, on m'a dit, demain, on reçoit Michel Picon de l'UDP. Et là, c'est moi qui ai dit,
petite absence.
C'est sûr que vous ne voulez pas changer aujourd'hui aussi. Et finalement, il a été formidable.
Ah, formidable.
Voilà. Alors, on remarque qu'au MEDEF, parmi les 5 derniers dirigeants, il n'y a qu'une femme, et à l'UDP, c'est encore pire, 5 hommes d'affilée. D'où cette question évidente, pourquoi les femmes n'ont-elles pas le courage de diriger des syndicats de patrons?
Oui. Mais,
j'ai envie de dire comme Louis Baudin, bougez-vous les feignasses. Je suis bien d'accord avec toi, Louis. Sortez de votre zone de confort, mesdames.
Bon, parlons santé royale. Mardi, le roi Charles a repris ses activités publiques. Donc c'était hier, en fait. Oui. Après 3 mois d'absence liée à son cancer.
Oui. L'hymne britannique a changé. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Ce n'est plus God Save the King, mais couche confiance, Save the King. Charles va bien, il s'est promené, les traits tirés, mais toujours les oreilles au vent. On a beaucoup de compassion pour ce roi. 70 ans avant de faire le job, et paf, il tombe malade. Comme il n'avait jamais bossé, pour moi, c'est quasiment un cas de cancer pédiatrique. Alors, pour sa première sortie, le roi a justement choisi de se rendre dans un centre spécialisé contre le cancer. Il a raison de combattre le mal par le mal. C'est un peu comme si, après l'accident de Diana, il avait visité un concessionnaire Mercedes, finalement. Sans prostate, Charles a un peu perdu de son contrôle urinaire, ce qui facilite grandement le travail des gardes du corps du roi, qui peuvent littéralement le suivre à la trace. Ah, il est parti par là. Il est parti.
Vous vouliez aussi dire un mot du premier film
cinéma
d'Artus en tant que réalisateur. Ça s'appelle Un petit truc en plus, une comédie avec des personnes en situation de handicap mental et avec Artus.
Ouais, formidable, Un petit truc en plus. Et c'est pas le biopic d'Amanda Lear. Hein. Je le dis pour les fans.
Ce qui aurait mal compris.
Femme d'Amanda dont je suis. Allez voir ce film incroyable. Il y a Clovis Cornillac, Alice Belaïda, ils sont formidables. Et il y a des copains à Artus et à moi, un peu moins connus, Fred Doisan, Mathieu Burnel. Je vous cache pas, j'ai été un peu vexé parce que j'ai même pas.
Vous n'êtes pas dans le film.
C'est un copain, je suis pas dans le film.
Ah.
Non. J'ai même pas passé le casting. Et moi, je lui avais demandé à Artus. Il m'avait laissé ce message.
Oui, mon filou, c'est Artus. Écoute, j'ai bien eu ton message. Alors, c'est gentil pour le film. Déjà, le casting est terminé. Oui. Et puis, honnêtement, si j'avais dû te prendre. Enfin, voilà, c'était compliqué parce que soit je voulais des acteurs en situation de handicap, ce que tu n'es pas. T'es très con, mais c'est pas considéré comme un handicap pas assez, je pense. Soit des bons acteurs. Voilà. Et comme tu n'es malheureusement aucun des deux, j'ai préféré passer mon tour avec toi. Je t'embrasse. À bientôt pour un autre projet.
Voilà, c'était un peu violent. Alors, comme il m'a pas pris, je vais citer les autres films qui sortent aujourd'hui. Oui. Alors, il y a le tableau volé avec Alex Lutz. C'est formidable. Mm-hmm. The Fall Guy avec Ryan Gosling. Et il y a plein d'autres films.
D'accord. Ta gueule, filon, on s'en fout. Non, il faut aller voir un petit truc en plus. Voilà, un petit truc en plus, c'est tout. Et t'arrêtes de n'importe quoi. Sinon, je raconte la fois où on était tous les deux tout nus et que tu m'as dit, oh là, c'est quoi ça, je peux jouer avec. Et qu'après, moi, j'ai pas voulu.
Alors c'est faux, il ment. C'était bien sûr médical. Il avait un petit bout de peau qui dépassait. C'est Sylvain.
Dans le film, il y a une scène comme ça sous la douche.
Il y a une scène sous la douche. Oui. Le film est incroyable, c'est drôle, c'est émouvant. Allez, sinon, on rembourse. C'est la bande son.
Incroyable
le film.
Allez, à demain et aller au cinéma, puisque de toute façon il fait pas très très beau, c'est une bonne idée. Partie des rares choses ouvertes aujourd'hui.
Il est 8h44. Oui. Bonjour docteur Jimmy Mohamed.
Bonjour Yves, bonjour Amandine.
On met au point une prise de sang qui permet de détecter l'arthrose, et cela avant même l'apparition de la moindre douleur.
Oui, et de détecter de façon précoce, plus précisément l'arthrose du genou, qui est l'une des formes d'arthrose les plus fréquentes. On rappelle qu'au niveau d'une articulation, vous avez du cartilage qui est une substance blanche un peu nacrée, qui sert en quelque sorte d'amortisseur entre les os, accompagnant chacun de nos efforts. Et dans l'arthrose, vous avez notamment l'atteinte et la disparition de ce cartilage.
Et quel est donc alors ce test sanguin qui a été mis au point par les chercheurs ?
Les chercheurs ont trouvé ce qu'on appelle un biomarqueur, c'est-à-dire un marqueur, une signature de l'arthrose dans le sang. Pour faire simple, ils ont réussi à élaborer un test sanguin permettant de détecter l'arthrose 8 ans avant l'apparition du moindre symptôme de douleur au niveau du genou.
Pardonnez-moi, mais quel est l'intérêt de détecter une maladie qu'on ne peut pas soigner ?
C'est ce qu'on appelle de la médecine prédictive. Ne rigolez pas, c'est très sérieux. Car demain, si on vous dit que vous êtes à haut risque de développer une maladie, quelle qu'elle soit, en fait, l'idée, c'est de vous proposer une stratégie à mettre en place pour éviter que cette dernière ne survienne, ou du moins vous donner tous les meilleurs conseils possibles pour en limiter le risque.
Alors justement, quels sont les conseils pour limiter les risques d'arthrose ? C'est pas héréditaire ?
Si, malgré tout, il y a une forte composante héréditaire, génétique dans l'arthrose, mais il y a d'autres facteurs qui vont influencer sa survenue. Le premier et le plus important après l'âge, c'est le surpoids et l'obésité. Donc, si vous êtes à risque d'arthrose avec cette prise de sang, on devra vous suivre et vous aider à perdre du poids. Je rappelle que l'obésité est doublement responsable de l'arthrose. Un, par la contrainte mécanique, plus vous êtes lourd, plus vous mettez du poids sur l'articulation et plus forcément elle s'abîme.
Le second facteur, de quoi s'agit-il ?
N'oubliez pas que la graisse, c'est un organe qui sécrète des molécules inflammatoires qui vont attaquer les articulations. Et pour vous donner un exemple, lorsque vous êtes en surpoids ou obèse, vous augmentez d'avoir le risque d'arthrose du genou, mais aussi d'arthrose de la main. Pourtant, votre main, elle ne pèse pas plus lourd, mais c'est l'inflammation qui entraîne cette arthrose.
Bon, qu'est-ce qu'on peut faire d'ailleurs si on souffre d'arthrose ?
Trois messages simples à retenir. Le premier, c'est que le diagnostic d'arthrose se fait par une radiographie classique. Je vais le dire tel que je pense, ne saoulez pas votre médecin avec des IRM qui n'apportent pas grand-chose. On a besoin d'une radio simple et ça suffit. À partir de 30 ans, c'est le deuxième message, on a tous de l'arthrose qui va arriver. Et donc forcément, sur un compte-rendu d'examen, il y a de grandes chances qu'on vous dise « Ah oui, il y a un petit peu d'arthrose ». En revanche, ce qui est important, c'est si vous avez des douleurs ou pas. L'arthrose, ça doit faire mal, sinon on s'en fiche. Et puis pour lutter contre la douleur et l'arthrose, le meilleur des médicaments, eh bien ça reste l'activité physique. Mmh. Il faut bouger et n'hésitez pas à vous faire aider par un kiné pour vous accompagner dans vos douleurs.
Merci beaucoup, docteur Jimmy Mohamed. Cyril Lignac.
Et bonjour.
Et super, bonjour.
Ah, moi, je suis là pour le bonheur. Hein.
Bah, bien entendu, puis on est le 1er mai. Alors, donnez-nous une astuce pour une bonne mousse au chocolat croustillante.
Ah, ça, c'est exceptionnel.
Aux framboises.
Alors, on va faire... on va faire une mousse au chocolat. Voilà. Au chocolat blanc. On va le mettre dans une verrine. On va, au fond, écraser des framboises au sucre. On va faire un riz soufflé croustillant.
Oh là.
Et on va déposer la mousse au chocolat.
Oh là. Oh là là là.
Ah, il faut mettre un peu de soleil dans le cœur parce que Louis, il nous déprime. Alors on y va, mousse au chocolat, très simple.
Très bien.
On fait fondre le chocolat blanc au bain-marie, pas au micro-ondes, sinon il brûle et ça fait des petits cristaux. On met le chocolat que l'on casse donc au bain-marie. Une fois qu'il est bien fondu, on le laisse refroidir un tout petit peu. Vous allez monter pendant ce temps-là une crème fouettée, c'est-à-dire comme une chantilly mais pas sucrée. Lequel on va ajouter de la vanille pour la parfumer, puisque le chocolat blanc, c'est quand même beaucoup de sucre et du beurre de cacao.
Oui.
Mais ce qui est bien, c'est qu'on va balancer avec les framboises acidulées. Donc là, vous mélangez votre mousse au chocolat. À côté, on va prendre des framboises que l'on écrase avec du sucre. Ça va faire sortir le jus de framboise. Très peu de sucre. Un petit jus de citron. Et là, on a notre petit mélange de framboises au sirop, oui.
Alors non, j'ai plusieurs questions.
Allons-y.
On peut revenir sur le micro-ondes. J'ai pas compris son défaut.
Alors, le principe du micro-ondes, c'est que
vous l'utilisez souvent le micro-ondes.
Oui, mais
faut savoir choisir en quelle circonstance.
En fait, le micro-ondes, c'est des ondes qui vont frotter les molécules de l'aliment qui est à l'intérieur du micro-ondes.
Oui.
Si vous mettez un poisson, vous le mettez 3 minutes au micro-ondes. Le poisson, c'est plein d'eau. Les molécules, les courants frottent à l'intérieur du poisson et par l'excès de chaleur, il va cuire.
D'accord.
Si vous faites avec du chocolat, le chocolat, il a pas d'humidité à l'intérieur. Donc, c'est pour ça que souvent, plein de gens me disent « Ah mais, le chocolat, quand je mets le micro-ondes, il a des granulés. »
Très intéressant.
Ce qui est brûlé.
Eh ben voilà, vous venez de répondre à une question que beaucoup de nos auditeurs se posaient.
On peut le faire au micro-ondes, ça c'est pas le problème. Mm-hmm. Sauf que faut y aller doucement, faut faire fondre un peu, remuer le chocolat, refaire fondre un peu, remuer le chocolat. C'est pour ça que je préconise le bain-marie, comme ça, pendant ce temps-là, on peut faire autre chose.
Bah, bien sûr.
Et ensuite, j'aime bien, moi, les riz soufflés que l'on va mettre à l'intérieur. C'est-à-dire, vous prenez des riz soufflés, vous allez faire fondre du chocolat blanc ou du chocolat au lait, vous mélangez vos riz soufflés au chocolat qui va apporter le croustillant, et là, vous me montez la verrine, framboise, riz soufflé, mousse au chocolat, et on y retourne. Framboise, riz soufflé, mousse au chocolat, et le tour est joué.
Oh là là.
Et bon 1er mai.
Vous avez trouvé nul, mais le riz soufflé, on le fait comment?
Alors, on achète du riz soufflé.
D'accord.
Des boîtes de céréales.
J'ai jamais acheté de ma vie de riz soufflé.
C'est des boîtes de céréales. En fait.
Des boîtes de céréales que.
Ah oui, d'accord.
Que le docteur Jimmy Wovend, il adore.
Non, ce monsieur,
je vais me faire gueuler.
Mais non, c'est le 1er mai, on va se faire plaisir.
Mais je vais citer une liste, mais pas grave. Des Poppies, par exemple, c'est ça.
Rice Krispies.
Que vous mélangez avec un peu de chocolat pour faire ce petit riz soufflé. Aussi. Bon, on a le droit un peu,
de temps en temps. C'est plein de sucre, mais une fois de temps en temps.
Avec la bénédiction, à partir du moment où c'est une fois de temps en temps. Bon docteur Jimmy Mohamed. Bah écoute, tout ça nous met de bonne humeur et on va retrouver Laurent et Jade dans un instant, donc ça va continuer.
RTL Matin.
Ça fait clic, 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 pam, pam, pam.
Yves Calvi.
Je traque ton petit cœur, ma chérie, t'es trop séduisant.
Amandine Bégo.
T'es tellement chouchou.
7h, 9h.
Je sais pas ce qui s'est passé, je sais pas à quoi tu joues, mais je peux pas oublier le passé.
Dans RTL Bonsoir, Alex Vizorek vous présente sa visioconférence.
François Bayrou s'est dit prêt, si besoin, à figurer à la fin de la liste de la majorité aux européennes.
Sympa, mais entre nous, je pense que Valérie Ayer et ses colistiers n'ont pas besoin de l'expérience de François Bayrou en matière d'élection. Ils peuvent très bien arriver à perdre tout seul.
La visioconférence, c'est tous les jours à 18h35 dans RTL Bonsoir.
Lorsque Greg reçut sa livraison Amazon, ce fut le début d'un nouveau cycle pour lui. Ce mode éco, cette technologie anti-vibration, c'était le lave-linge de ses rêves à un prix si bas qu'il ne put résister. Ça mérite bien 5 étoiles. Des produits très bien notés à des prix que vous allez adorer. Découvrez nos offres dès maintenant sur Amazon. Pour certains, le bonheur, c'est de tout posséder. Pour d'autres, de tout partager. Pour Maxiso, le bonheur, c'est de tout donner. En ce moment, pour votre félin, le sac de croquettes Royal Canin 4 kg pour chat stérilisé est à seulement 36,99€. 36,99€ au lieu de 39,99€, soit 9,25€ le kilo. Car nous sommes heureux quand vous l'êtes. Maxiso, tout pour vos animaux. Réélu meilleure chaîne de magasins 2024, catégorie animalerie, aliments pour animaux. Offre valable jusqu'au 8 mai en magasin et sur maxiso.fr.
IKEA.
On est quand même bien au soleil sur notre balcon. Hein.
Mais tellement.
Mais il manque un truc.
Un serveur qui fait « Je vous sers quelque chose ?»
Ouais, enfin, surtout une table et des chaises.
Notre nouvelle offre va mettre tout le monde dehors. Jusqu'au 12 mai, profitez de moins 20% sur les tables et chaises d'extérieur avec la carte gratuite IKEA Family. Rendez-vous en magasin et sur IKEA.fr.
7h-9h, RTL Matin. Amandine Bégot et Yves Calvi.
Bonjour Mademoiselle Jade.
Bonjour Monsieur Calvi.
Bonjour Laurent Gerbe.
Bonjour.
Bonjour Yves, bonjour Amandine.
Le gouvernement a dévoilé la semaine dernière son plan de bataille pour lutter contre la fraude fiscale. Sont principalement ciblés ceux qu'on appelle les ultra-riches. Faisons le point avec notre spécialiste économique, François Langlais. Bonjour François.
Bonjour Jade. Auriez-vous une petite pièce ou même un ticket restaurant pour un journaliste dans la précarité qui n'a même pas les moyens d'avoir des cheveux?
Mais qu'est-ce qui vous arrive François? Vous êtes dans le besoin?
C'est surtout que Gabriel Attal, le stagiaire de 3e, écoute RTL. Enfin, les rares fois, il n'y est pas.
Oui.
Vous avez pensé à lui faire un badge, à le tribune, une place de parking ?
Eh ben, on en parlera aux services généraux, François. En quoi le fait que Gabriel Attal écoute RTL vous pose un problème ?
Ben, je n'ai pas très envie qu'il apprenne des choses sur le patrimoine des collaborateurs de RTL, plus généralement du groupe M6.
Mais nous n'avons rien à cacher.
En effet, je ne pense pas que vos bâtons de marche nordiques et vos chiens Bibi vous prennent plus chez les ultra-riches. En
c'est
revanche,
vrai.
Yves Calvi pourrait être embêté par les fines lames de Gabriel Attal. Mmh. Je ne suis pas sûr qu'Yves Calvi a déclaré les 80 meules de gruyère qu'il possède en Suisse. Oui. En langage économique, ça s'appelle de l'évasion fiscale.
Mais non, c'est pour sa consommation personnelle, François. Tout va bien chez nous, alors.
Vous avez raison, Jade, je m'inquiète pour rien. Et puis, ce n'est pas comme si j'avais parlé des 1200 paires de Louboutins qu'entrepose Amandine Bégaud dans sa villa de 1500 m² à Saint-Tropez.
J'aimerais bien.
Très bonne chaussure.
Alors, la semaine dernière, l'actrice Adèle Haenel a annoncé qu'elle abandonnait le cinéma pour se consacrer à la politique, ce qui a suscité de nombreuses réactions. Dominique Strauss-Kahn, vous avez souhaité commenter cette décision.
Bonjour Michel. En effet, en tant qu'ancien ministre et ancien candidat à la présidentielle, ancien directeur du FMI, Fonds monétaire international, j'aurais souhaité la bienvenue en politique à Adèle Haenel.
Oui, mais pas sûr que ça la réjouisse. Je vous rappelle qu'elle a notamment interrompu sa carrière d'actrice pour protester contre le machisme.
Elle a raison, nous manquons de belles femmes en politique. C'est pourquoi les Français se désintéressent de la politique et au lieu de regarder les débats de Public Sénat, ils regardent les ébats de Pubis Nana.
Ah, on ne connaissait pas cette chaîne. Un conseil à Adèle Haenel pour débuter sa carrière en politique ?
Qu'elle se fasse pousser les cheveux, qu'elle se parfume, qu'elle se fasse les ongles, qu'elle quitte son anorak de la CGT, qu'elle s'achète un corsage, une jupe, des talons hauts, très hauts.
Oui,
et surtout, il lui faut des lunettes. Très important, les lunettes en politique. Surtout si elle veut monter au perchoir de l'Assemblée pour tenir les grelots. Alors, vous connaissez le proverbe ? Femme à lunettes, femme à...
Oui, merci Dominique Strauss-Kahn, on a bien compris.
Femme à lunettes, femme à clochette. Bonjour madame.
Bonjour François Ruffin, on est très heureux de vous recevoir. Vous êtes l'un des dauphins de Jean-Luc Mélenchon.
Merci madame, mais moi je suis le gentil dauphin. Manuel Bompard, c'est le vilain dauphin.
Mais qu'est-ce qui vous amène, gentil dauphin ?
Ben moi aussi, je voudrais dire à Adèle Haenel qu'elle est la bienvenue en politique. Je l'ai vu l'autre jour qui faisait la gréviste en colère à la raffinerie de Gonfreville. Elle joue super bien, hein, l'ouvrière en colère. Hein. Elle joue super bien.
Hein. Ben, c'est vrai que c'est une grande actrice.
Mais qu'est-ce qui se passe là-dedans ? Qu'est-ce qu'il fout là, mon Dauphin Ruffin.
Bonjour Jean-Luc Mélenchon. François Ruffin voulait juste souhaiter la bienvenue en politique à Adèle Haenel, qui est une grande comédienne.
Mais quelle comédienne ? La comédie, c'est moi. Le premier rôle, c'est moi. La Palme d'Or, c'est moi.
Ah, vous ne comptez donc pas proposer à Adèle Haenel de rejoindre la France Insoumise ?
Vous savez, pardon. Vous savez, on l'a déjà proposé, mais elle veut d'abord qu'on pende Adrien Quatennens par ses attributs. Mais qu'elle est conne !
Des scientifiques chinois ont mis au point un algorithme permettant aux missiles chinois de ne plus jamais être interceptés par les défenses les plus sophistiquées du monde. On en parle avec notre spécialiste de la Chine. Bonjour Jean-Pierre Raffarin.
Bonjour.
Ou plutôt, devrais-je dire, ni hao, Jean-Pierre Raffarin.
Ni hao, mademoiselle Jeanne, pardon. Oui. Et merci de me recevoir.
Wang Ying Lai Tao, Yel Bong Qing.
Alors, je traduis pour nos auditeurs.
Oui.
Bienvenue à RTL.
Alors, pardonnez-moi de vous corriger, mais vous n'avez pas dit bienvenue à RTL, mais bienvenue à BHL.
Ah.
Et je n'ai rien d'un philosophe à chemise blanche.
Oups, alors je suis désolée, j'ai encore confondu Pong Qin et Pong Ming.
Peu importe, venons-en à l'essentiel. Avec ses missiles indétectables, la Chine prend en effet un avantage considérable sur le plan mondial.
Et qu'en disent les médias chinois ?
Oui. Ils se réjouissent de pouvoir enfin défier sans trembler l'impérialisme américain. Et c'est un fait extrêmement rare. Les journalistes de droite comme Pascal Prong de Sénouille.
Bien sûr, notre ami.
Sont d'accord avec les journalistes de gauche comme Edoui Plenem de Waka Mediapart.
Et aucune voix pacifiste ne s'élève contre le danger que cela pourrait représenter ?
Si, mais bien sûr. Le chanteur engagé Patrick Sébastien écrit une magnifique chanson qui dénonce le danger des missiles chinois indestructibles. Une chanson digne des plus beaux textes de la poésie chinoise.
Ah oui, lesquels ? Mais quelles en sont les paroles, surtout ?
Eh bien, si je les traduis en français, cela donnerait
Dans mon slip, il y a un gros missile. Mais il sert pas à faire la guerre. Je l'envoie toujours dans le mille. Mmh. Les petits et les gros derrière. Dans mon slip, il y a un gros missile.
C'est pas possible.
Les radars le détectent pas. À chaque fois, il atteint sa cible. Les femmes grimpent au nirvana.
Cette fois, c'est officiel. Léon Esby, à 17 ans, le fils de Patrick Bruel, se lance dans la chanson. Bonjour Léon Esby.
Salut Jade, salut à tous, et salut à toi aussi, et enfin, à toi Amandine, et à toi Isabelle, et Cyril, et à toi aussi là-bas, tout seul derrière ta vitre aussi là, et salut, et salut.
Ah, merci Léon, tout le monde dit que vous êtes un très gentil garçon,
ouais,
je suis
super cool.
C'est pas la peine d'en rajouter, vous sortirez donc votre premier titre, 1, 2, 3, on l'écoute.
Non, 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 1, 2, 3,
pardon, 1, 2, 3. On aime beaucoup, hein.
Ça y est, je suis choqué comme une chienne de chanter entre dans la Justine Timberlake. Mais en tant que jeune chanteur, je suis pas que ça. Tu mets un pull sur les épaules, un pull à la coste, un pantalon à pince et je te fais vianner si tu veux.
Oui.
Alors.
C'est vrai que c'est un autre registre.
En plus. En tant que jeune de ma génération, je suis pas engagé contre les stéréotypes sexistes. Je suis vachement fluide au niveau du genre. Mm-hmm. Tu mets une perruque à Franche, tu fais Carluciani.
Ah oui. Mais quelle palette de talents.
Oui.
Vous nous rappelez quelqu'un, Léon?
Qui ça? Et Chan, Bruno Mars, Justin Bieber.
Non, plus proche de vous, votre papa, Patrick Bruel.